Calade 100.9.
L'info locale et régionale.
Présenté par Sylvie Rosier.
Après le Papayou en Saône-et-Loire en 2009 et la Clé des Champs dans l'Inde 10 ans plus tard, c'est au tour de l'Arc-en-Ciel le 2 juillet qui a annoncé sur les réseaux sociaux de fermer définitivement ses portes. Qu'on se le dise, les jeunes n'aiment pas sortir en boîte de nuit. Depuis les années 80, la France a perdu 70% de ses boîtes de nuit, dont 30% rien que depuis le Covid. Dans les bars, les jeunes sont assez catégoriques. Les boîtes, c'est non. L'alternative, c'est souvent les soirées en appartement ou les bars dansants. Aujourd'hui, ils font des repas à la maison et ils sortent un peu moins. Un cocktail de pub, bar dansant ou soirée privée, par exemple. Ainsi, l'amour des jeunes pour les boîtes de nuit, ça va, ça vient. La concurrence exercée par les bars d'ambiance musicale rend l'exercice de la profession difficile. La génération indoor se détourne des boîtes de nuit et la tendance cocooning fleurit sur les réseaux sociaux. C'est ce que montre la récente enquête « You Going Out ?» réalisée par la plateforme Keep Hush. La culture clubbing est moins en vogue auprès de la Gen Z, ces jeunes nés entre 1997 et 2010. Les générations contrôle freak des risques, le monde de la nuit en est truffé. Les individus sont en recherche de sécurité, d'entre-soi, de bien-être et de confort. Ils ont un rapport au risque qui n'est pas celui qu'on observait à la fin du XXe siècle, où la prise de risque était valorisée. Mais la fête ne disparaît pas pour autant, elle se déplace vers des sphères privées et surtout très quadrillées. Chez soi, le contrôle de son ambiance, de la musique, de qui vient à la soirée, pour ne pas se confronter à l'inconnu, à l'étrangeté du monde d'une certaine manière. En tout cas, il reste quand même près de 2000 clubs en France. House, techno, rap ou disco, le Saturday Night Fever, allumez le feu.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur Calade.
Calade, ma radio.
Villefranche-sur-Saône, intervention terrain de football du Fresne, le stade Montmartin, par héliporté de l'aménagement de l'éclairage en LED du stade, dernier complexe sportif du parc municipal des sports non éclairé. Les détails avec le responsable de l'opération pour la ville de Villefranche.
Jonathan Sornet-Tranqui, chargé d'affaires éclairage public et réseau pour la ville de Villefranche-sur-Saône. Du stade du Fresne. Alors on est sur le domaine privé de la ville de Villefranche, mais sur la commune de Glaizé.
Une mise en lumière du terrain du Fresne du stade Montmartin.
Alors c'est un terrain d'entraînement de football, donc pour les équipes, les différentes équipes de Villefranche, en fonction des besoins, des plannings. Donc c'est un terrain, c'est le dernier terrain qui n'était pas encore éclairé à Villefranche, donc il y a eu un souhait de la collectivité d'éclairer ce terrain pour favoriser les entraînements hivernaux notamment. D'accord. C'est ça, ça correspond à une demande en fait des équipes de sport, de football en particulier, pour avoir de l'éclairage sur ce terrain aussi.
Ce terrain était le dernier du parc municipal des sports à ne pas être équipé d'éclairage.
Donc on a des travaux, tous les travaux préparatoires qui ont été faits par l'entreprise Serpollet, donc qui a préparé des gros massifs de béton. Donc c'est des gros plots de béton qui font à peu près 5-6 mètres cubes par massif. Et après, donc, on a l'entreprise SAF Hélicoptère, qui sont des spécialistes du levage par hélicoptère. Ils font beaucoup de terrain, ils font aussi d'autres choses, mais beaucoup de terrain de sport à travers toute la France. Et donc, effectivement, on vient avec l'hélicoptère pour poser directement les mâts sur les plots de béton, donc sur les massifs en béton, sur les tiges qui sont déjà en place. Donc, on vient à l'hélicoptère, on pose, on boulonne, on décroche, et puis on passe au mât suivant.
Les projecteurs seront bien entendu dotés d'ampoules qui minimisent la consommation d'énergie.
Alors évidemment, c'est que de l'éclairage LED, on est sur 3 projecteurs LED par mât, pour deux raisons, de toute façon, aujourd'hui on fait que ça, et puis même pour des raisons d'économie d'énergie, de toute façon, ça n'aurait pas de sens de rester sur des anciennes technologies.
Les entraîneurs sportifs disposent sur place d'un poste de commande à clé pour l'éclairage et l'extinction des lumières.
Tout à fait. Donc là, on a deux systèmes en fait pour la commande. À l'entrée du terrain, il y a un petit potelet avec une commande à clé. Donc comme ça, les entraîneurs peuvent allumer ou éteindre à la demande avec une clé qu'ils auront l'éclairage.
Les responsables municipaux peuvent, si besoin, intervenir dessus à distance également.
Et puis, pour la gestion, pour le service des sports, notamment pour les astreintes, on a une commande à distance, comme on a sur plusieurs autres terrains, comme à Chouffet, à Jean-le-Mouton ou autre. On a ce commande à distance qui nous permet, avec une application smartphone, d'allumer ou d'éteindre l'éclairage. Voilà, c'est ça, c'est les techniciens des services des sports qui ont besoin d'avoir, des fois, un oubli d'extinction ou un oubli de clé pour de l'allumage. Ça leur permet de pouvoir faire rapidement un allumage en 2 minutes, sans avoir à traverser toute la ville, à se déplacer. Donc c'est beaucoup plus simple pour eux en termes de temps de travail.
Dès le mois d'août, le FCVB pourra donc l'utiliser en soirée pour ses entraînements.
Alors oui, c'est une opération particulière, parce qu'on n'en fait pas tous les jours quand même, d'élevage comme ça, l'hélicoptère. Normalement, on les pose à la grue, les mâts des stades. Après, aussi, on a des contraintes d'accès pour les grues, avec nous aurait demandé beaucoup de travaux de remise en état, des terrains, des clôtures. On aurait abîmé la végétation encore plus. Donc pour préserver les terrains, la végétation, gagner du temps, il y a eu ce choix de faire hélicoptère, et qui est un choix économique aussi, parce que finalement, ça nous revient même moins cher à l'hélicoptère qu'avec une grue en incluant toute la remise en état. Donc voilà, ce choix un peu particulier, mais techniquement efficace. Tout à fait, on a juste élagué quelques branches principales qui gênaient pour pas risquer de faire tomber des branches sur les opérateurs au sol. Mais effectivement, l'hélicoptère vient directement entre les arbres, à la verticale, il descend à la verticale entre les deux arbres pour venir déposer directement le mât sur son plot de manière la moins intrusive possible.
L'emploi est aussi une des préoccupations dont se dote la communauté d'agglomération de Beaujolais-Saône. Associée dans l'opération Village France Travail, un village itinérant pour se rapprocher des demandeurs d'emploi dans des quartiers éloignés, des centres urbains, le village se tenait plus particulièrement au cœur du quartier de Belleroche, à Villefranche, l'occasion d'une discussion avec sa vice-présidente au développement économique à la communauté d'agglomération VBS, en charge de l'emploi, de l'insertion et de la formation, Myriam Kadi.
Donc, on monte beaucoup d'opérations avec France Travail. Cette opération, bien sûr, en fait partie, mais on a également d'autres opérations. Vous avez suivi également Objectif Emploi, qu'on réitère en octobre, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on a d'un côté des jeunes et des moins jeunes qui recherchent des emplois, de l'autre, des entreprises qui recrutent, et on n'a pas forcément le phasage et la passerelle à mettre en place entre ces deux parties. Donc, notre rôle, ça va être d'harmoniser tout.
La communauté d'agglomération VBS a pour orientation de répondre aux besoins du secteur économique et soutenir ses entreprises du territoire.
Ce n'est pas à 100% une compétence de la communauté d'agglomération, mais dans la mesure où on travaille au service des entreprises et que les entreprises aujourd'hui rencontrent des problématiques cruciales de recrutement, certaines entreprises ne peuvent plus produire, faute de salariés. Donc il y a un vrai sujet pour qu'on continue à faire du développement de nos entreprises, mais avec des compétences adaptées qui permettent de produire dans de bonnes conditions. C'est dans ce contexte-là qu'on s'associe à ce type d'opération.
La formation et l'insertion professionnelle, des éléments à travailler pour l'avenir.
Aujourd'hui, on est quasiment en plein emploi. Si on prend les ratios des demandeurs d'emploi sur le territoire, on est autour de 5% de demandeurs d'emploi, ce qui est presque le ratio presque normal entre les personnes qu'on a beaucoup de mal à insérer pour diverses raisons. Et également, un défaut très certainement, et on travaille aussi sur le sujet avec les structures de formation, un défaut d'anticipation des métiers de demain. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on commence à former des compétences dont on aurait besoin déjà crucialement aujourd'hui. Donc il y a un décalage de timing entre le moment où on produit des jeunes ou des personnes en reconversion formées et le besoin immédiat des entreprises. Donc il faut qu'on anticipe les besoins et qu'ils répondent surtout aux métiers de demain. Et la difficulté, c'est d'évaluer les niveaux de compétences nécessaires pour des métiers dont on ne connaît pas forcément encore la teneur aujourd'hui.
C'était Myriam Kadi, vice-présidente au développement économique de la communauté d'agglomération VBS, en charge de l'emploi, de l'insertion et de la formation.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.